Quand Faramir eut pris du pain blanc et bu une gorgée de vin, il s'assit dans un fauteuil bas à main gauche de son père. De l'autre côté, un peu en retrait, Gandalf occupait un fauteuil de bois sculpté, et au début, il semblait dormir. Car Faramir ne parla tout d'abord que de la mission qui lui avait été confiée 10 jours auparavant, donnant des nouvelles de l'Ithilienne et des mouvements de l'ennemi et de ses alliés. Et il raconta les échauffourées qui avaient eu lieu sur la route et où les hommes du Halad et leurs grandes bêtes avaient été anéantis. C'étaient les propos d'un capitaine rapportant à son maître, comme souvent par le passé, les détails d'une guerre frontalière devenue inutile et insignifiante, sans gloire aucune. Puis Faramir se tourna tout à coup vers Pipin. « Mais nous en venons maintenant à d'étranges affaires, » dit-il, « car ce n'est pas le premier demi-homme que je vois sortir des légendes septentrionales et s'aventurer dans les terres du Sud. » À ces mots, Gandalf se redressa, agrippant les bras de son fauteuil. Mais il ne dit mot et, d'un regard, contint l'exclamation qui venait aux lèvres de Pipin. Denethor, les observant, eut un hochement de tête, comme pour signifier qu'il avait lu bien des choses sans qu'aucune parole ne fût prononcée. Lentement, devant un auditoire silencieux et pétrifié, Faramir raconta son histoire. La plupart du temps, son regard était fixé sur Gandalf, mais ses yeux s'égaraient parfois sur la personne du Hobbit, comme pour rafraîchir le souvenir que d'autres lui avaient laissé. Comme il racontait l'histoire de sa rencontre avec Frodo et son serviteur et des événements de Eneth Anun, Pipin se rendit compte que les mains de Gandalf tremblaient, crispées sur le bois sculpté. Elles paraissaient blanches et fort vieilles à présent. Et en les regardant, soudain, avec un frisson d'épouvante, Pipin sut que Gandalf lui-même, était secoué, même apeuré. L'air de la pièce était lourd et suffocant. Quand Faramir en vint à sa séparation d'avec les voyageurs et à leur décision d'aller à Kelit Ungol, sa voix se réduisit à un murmure, et il soupira secouant la tête. Puis Gandalf sauta sur pied.
« Kelit Ungol, le Val de Morgul !» fit-il. « Quel jour, Faramir, quel jour ! À quand remonte cette séparation ? Quand devait-il atteindre cette vallée maudite ?»«
Je les ai quittés il y a 2 jours dans la matinée, » dit Faramir. « 15 lieues séparent cet endroit de la vallée de la Morgul Dwin, en allant droit au sud, et cela les aurait amenés à 5 lieues à l'ouest de la tour maudite. En faisant au plus vite, ils n'ont pu l'atteindre avant aujourd'hui, et peut-être n'y sont-ils pas encore. Je vois bien ce que vous craignez, mais la venue de l'obscurité n'est pas le fait de leur entreprise. Elle est venue hier au soir, et tous les Ithiliennes étaient dans l'ombre la nuit dernière. Pour moi, il est clair que l'ennemi avait prévu de nous assaillir de longue date, et qu'il avait choisi son heure avant même que les voyageurs aient quitté ma protection. »
Gandalf se mit à arpenter la pièce.
« Avant-hier au matin, soit près de 3 jours de voyage. À quelle distance se trouve l'endroit où vous vous êtes quitté ?»«
À quelques 25 lieues à vol d'oiseau, » répondit Faramir. « Mais je ne pouvais pas venir plus vite. Hier soir, j'étais à Cair Andros, la longue île qui nous sert de défense en amont sur le fleuve. Nous y gardons des chevaux sur la rive occidentale. Quand je vis monter l'obscurité, je sus qu'il fallait faire vite. » Alors je chevauchais avec 3 autres pour qui je disposais de montures. J'envoyais le reste de ma compagnie au sud afin de renforcer la garnison au gué d'Osgiliath. J'espère n'avoir pas mal fait. »
Il se tourna vers son père.
« Mal fait !»
s'écria Denethor. Et soudain ses yeux étincelèrent.
« Pourquoi cette question ? Ces hommes étaient sous ton commandement. Où veux-tu que je juge de chacun de tes actes ? Tu t'abaisses beaucoup en ma présence, mais il y a longtemps que tu ne t'es détourné de ton chemin pour suivre mon conseil. Vois, tu as parlé avec adresse, comme toujours. Mais moi, ne t'ai-je pas vu tâter Mithrandir du regard pour voir si tu parlais bien ou trop ? Il y a longtemps qu'il a ton cœur dans sa manche. Mon fils, ton père est âgé, mais non point gâteux. Je puis voir et entendre comme je l'ai toujours fait, et peu de choses échappent désormais à ma vue de ce que tu n'as dit qu'à moitié ou n'as pas voulu dire. Je connais la réponse à bien des énigmes, Hélas, hélas pour Boromir.
Si ce que j'ai fait vous déplaît à vous, mon père, dit posément Faramir, j'aurais voulu connaître votre avis avant que le poids d'un jugement aussi lourd ne tombe sur mes épaules.
Cela a-t-il changé quelque chose ?
Répondit Denethor.
Je gage que tu aurais agi exactement de la même manière. Tu ne désires jamais qu'être vu comme un noble et généreux seigneur, doux et bienveillant, comme un roi d'autrefois. Cela peut bien convenir à un homme de haute lignée, s'il règne en maître et en paix. Mais à l'heure des grands désespoirs, trop de douceur peut signifier la mort.
Eh bien, soit, dit Faramir.
Soit, s'écria Denethor. Mais pas seulement la vôtre, seigneur Faramir. La mort aussi de votre père et celle de tous vos gens qu'il est de votre devoir de protéger maintenant que Boromir n'est plus.
Souhaitez-vous donc, reprit Faramir, que nos destins aient été échangés?
Certes, c'est là mon souhait, répondit Denethor. Car Boromir était loyal envers moi et non l'élève d'un magicien. Il se serait souvenu du malheur de son père et n'aurait pas bêtement refusé ce que la fortune lui offrait. Il m'aurait rapporté un fabuleux présent.
Faramir perdit un instant sa retenue. Je vous prierai, cher père, de vous rappeler pourquoi ce fut moi et non lui qui partit en Ithilienne. Votre conseil a prévalu au moins une fois, il n'y a guère. C'est le seigneur de la cité qui confia cette mission à mon frère.
Ne remue pas l'amertume dans la coupe que je me suis moi-même versée, dit Denethor. Ne l'ai-je pas senti sur ma langue soir après soir, pressentant que la lie me serait encore plus nocive, ce qu'à présent je constate. Ah, s'il avait pu en être autrement, si cette chose était venue à moi.
Consolez-vous, dit Gandalf. En aucun cas Boromir ne vous l'aurait apporté. Il est mort et d'une mort honorable, puisse-t-il dormir en paix. Mais vous vous bercez d'illusions. Il aurait tendu la main pour se saisir de cette chose, et la prenant, il serait tombé. Il l'aurait gardée pour lui-même, et à son retour, vous n'auriez pas reconnu votre fils.
La figure de Denethor se crispa, dure et froide.
« Vous avez trouvé Boromir moins docile à votre main, n'est-ce pas ? »
dit-il doucement.
« Mais moi qui suis son père, je dis qu'il me l'aurait apporté. » Vous êtes peut-être sage, Mithrandir, mais malgré vos subtilités, vous n'avez pas toute la sagesse du monde. Des conseils peuvent être trouvés qui ne doivent ni aux intrigues des magiciens, ni à la hâte des fous. Je possède en la matière plus d'érudition et de sagesse que vous ne le supposez.
Et quelle est donc cette sagesse ? Dit Gandalf.
Suffisante pour savoir qu'il y a deux folies à éviter. Se servir de cette chose est dangereux. À l'heure actuelle, l'envoyer tout droit chez l'ennemi, entre les mains d'un demi-homme sans intelligence comme vous l'avez fait, vous et mon indigne de fils, cela est folie.
Et le seigneur Denethor, lui, qu'aurait-il fait?
Ni l'un ni l'autre. Mais il n'eût très certainement pas, pour aucune raison, mis cet objet en hasard, au-delà de toute espérance hormis celle d'un fou, et risquant notre ruine entière, si l'ennemi devait recouvrer ce qu'il a perdu. Non, il aurait fallu le garder, caché dans les ténèbres des profondeurs, ne pas s'en servir, dis-je, sinon en tout dernier recours, mais le mettre hors de son atteinte, sauf par une victoire de sa part, si définitive que la suite des choses ne nous inquiéterait pas, puisque nous serions morts.
Vous pensez, monseigneur, comme à votre habitude, au Gondor seulement, dit Gandalf. Or, il y a d'autres hommes et d'autres vies, et des temps encore à venir. Et pour moi, j'ai même pitié de ces esclaves.
Et où donc les autres hommes chercheront-ils de l'aide si le Gondor tombe ?
Répondit Denethor.
Si j'avais aujourd'hui cet objet au tréfonds de cette citadelle, nous ne serions pas à trembler de peur dans cette obscurité, à craindre le pire, et nos conseils ne seraient aucunement troublés. Si vous me croyez incapable de surmonter l'épreuve, c'est c'est que vous ne me connaissez pas encore. Qu'importe, dit Gandalf. Je ne puis vous faire confiance. S'il en était autrement, j'aurais pu envoyer ici cette chose et m'épargner bien des tourments à moi et à d'autres. Et plus je vous écoute, moins je vous fais confiance, pas plus qu'à Boromir. Non, retenez votre courroux. Je ne me fais pas confiance non plus sur ce point. Et j'ai refusé cet objet alors qu'il m'était librement offert. Vous êtes fort, Denethor, et encore capable de vous dominer à certains égards. Mais si vous aviez reçu cet objet, il aurait eu raison de vous. Serait-il enseveli sous les racines du Mindolwin qui ne cesserait de vous consumer à mesure que l'obscurité nous gagne et que surviennent les malheurs près de s'abattre sur nous? Pendant un instant, les yeux de Denethor s'enflammèrent encore face à Gandalf, et Pipin sentit une fois de plus la tension entre leurs deux volontés. Mais cette fois, il crut presque voir des lames tirées d'un œil à l'autre, qui se croisaient et étincelaient. Pipin se mit à trembler, craignant quelque funeste dénouement. Mais soudain, Denethor se détendit et retrouva sa froideur. Il haussa les épaules.
« Si j'avais, si vous aviez, » fit-il, « pourquoi tant de palabres? Il est parti dans l'ombre, et seul le temps nous dira quel destin l'attend, lui et nous. Il n'y aura pas long à attendre. Entre-temps, que tous ceux qui combattent l'ennemi à leur façon soient unis, qu'ils gardent espoir tant qu'ils le peuvent, et par-delà l'espoir, le courage de mourir libre. »
Il se tourna vers Faramir.
« Que te semble de la garnison à Osgiliath ?»«
Plutôt faible, » dit Faramir. « J'ai envoyé la compagnie d'Ithilienne en renfort, comme je le disais. »«
Trop peu, je gage, » dit Denethor. « C'est là que tombera le premier coup. Ils auront besoin d'un vaillant capitaine. »«
Là et en bien d'autres endroits, » dit Faramir.
Puis il soupira.
« Hélas pour mon frère que j'aimais aussi. »
Il se leva.
Puis-je me retirer, père ?
Et ce disant, il vacilla, s'appuyant sur le fauteuil de l'intendant.
Tu es fatigué à ce que je vois, dit Denethor. Tu es venu de loin et en toute hâte, sous des ombres maléfiques qui ont envahi les airs, me dit-on.
Ne parlons pas de cela, dit Faramir.
Soit, dit Denethor. Va et repose-toi comme tu le peux. Demain, sera plus sévère encore.
Tous prirent alors congé du seigneur de la cité, et ils allèrent se reposer pendant qu'ils le pouvaient encore. Dehors, sous la noirceur d'un ciel sans étoiles, Gandalf et Pipin regagnèrent leur logement, le hobbit portant une petite torche. Ils ne prononcèrent aucune parole avant de se trouver derrière des portes closes. Alors Pipin saisit la main de Gandalf.
« Dites-moi, y a-t-il de l'espoir ? »
demanda-t-il.
« Pour Frodo, je veux dire. Enfin, surtout pour lui. »
Gandalf posa sa main sur la tête du hobbit.
« Il n'y en a jamais eu beaucoup, » répondit-il. « Seulement l'espoir d'un fou, comme on vient de me le dire. Et quand j'ai entendu le nom de Kirith Ungol... »
Il s'interrompit, allant à la fenêtre comme si ses yeux pouvaient percer la nuit de l'Est.
« Kirith Ungol, » murmura-t-il. « Pourquoi ce chemin, je me le demande ?»
Il se retourna.
« Tout à l'heure, en entendant cela, le cœur a failli me manquer, Pipin. Mais à vrai dire, les nouvelles de Faramir me redonnent un certain espoir. Car il semble évident que notre ennemi a enfin déclenché la guerre, qu'il a bougé pendant que Frodo allait encore librement. Maintenant, et pour bien des jours, son œil se dirigera de côté et d'autre, en dehors de son propre pays. Néanmoins, Pipin, je sens d'ici sa hâte et sa peur. Il s'est mis en branle plus tôt qu'il ne l'escomptait. Quelque chose s'est produit qui l'aura contraint à l'action.
Gandalf s'arrêta et parut réfléchir.
Peut-être, marmonna-t-il. Oui. « Même votre bêtise a pu aider, mon garçon. Attendez voir. Il y a 5 jours environ, il aura découvert que Saruman était renversé et que la pierre était entre nos mains. Et alors, nous ne pouvions tirer grand-chose ni le faire à son insu. Ah, je me demande. Aragorn, son heure approche, et il est fort intérieurement, Pipin, d'une grande fermeté, hardi, déterminé, capable de suivre sa propre voie et de courir de grands risques au besoin. C'est peut-être cela. Il s'est peut-être servi de la pierre et montré à l'ennemi, cherchant à le défier dans ce dessein même. Je me le demande. Enfin, nous ne connaîtrons pas la réponse avant l'arrivée des cavaliers du Rohan, s'ils n'arrivent pas trop tard. Des jours funestes nous attendent. Au repos, pendant que nous le pouvons.
Mais,
fit Pipin. Mais quoi ? Demanda Gandalf. Je ne permettrai qu'un seul mais ce soir.
Gollum,
dit Pipin.
Comment diable se fait-il qu'ils se promènent avec lui, qu'ils aillent jusqu'à le suivre ? J'ai bien vu que Faramir n'aimait pas plus que vous l'endroit où il les menait. Que se passe-t-il donc ?
Je ne puis vous répondre pour l'instant, dit Gandalf. Mais mon cœur me disait que Frodo et Gollum se rencontreraient avant la fin, pour le bien ou pour le mal. Mais de Kirith Ungol, je ne parlerai pas ce soir. La traîtrise, voilà ce que je crains. La traîtrise de cette misérable créature. Mais les choses sont telles qu'elles sont. Rappelons-nous qu'un traître peut se trahir lui-même et causer un bienfait qu'il n'avait pas cherché. Cela arrive. Bonne nuit. Le jour se leva dans un crépuscule brun, et le cœur des hommes, ragaillardi un temps par le retour de Faramir, retomba. On ne revit pas les ombres ailées ce jour-là, mais de temps à autre, loin au-dessus de la cité, venait un faible cri, et la plupart restaient saisis comme d'une peur passagère, tandis que les moins intrépides pleuraient et tremblaient. Et voilà que Faramir était reparti. « Il ne lui laisse aucun repos », murmuraient certains. « Le Seigneur exige trop de son fils, et maintenant, il doit accomplir le devoir des deux, le sien et celui du fils qui ne reviendra pas. » Et les hommes regardaient sans cesse vers le nord et demandaient « Où sont les cavaliers du Rohan ?» Faramir, en vérité, n'était pas parti de son propre chef. Mais le seigneur de la cité était maître de son conseil, et ce jour-là, il n'était aucunement d'humeur à s'incliner devant autrui. Le conseil s'était réuni tôt en matinée. Tous les capitaines avaient jugé qu'en raison de la menace du sud, leur effectif était trop faible pour autoriser quelque action militaire de leur part, à moins que les cavaliers du Rohan ne se décident enfin à leur prêter main forte. Entre-temps, il s'agissait d'assurer la défense des murs et d'attendre.
« Il n'empêche, dit Denethor, que les ouvrages extérieurs ne doivent pas être abandonnés à la légère, notamment le ramasse édifié avec tant de peine. Et l'ennemi doit payer chèrement la traversée du fleuve. Il ne peut le faire en force suffisante pour attaquer la cité, ni au nord de Caerandros à cause des marais, ni au sud vers le Lebenin de par la largeur des eaux. Il lui faudrait pour cela de nombreuses embarcations. C'est à Osgiliath qu'il mettra tout son poids, comme auparavant, quand Boromir lui a refusé le passage.
« Il ne s'agissait que d'un essai, » dit Faramir. « Aujourd'hui, nous pourrions lui causer 10 fois nos pertes dans la conquête de ce passage et regretter tout de même l'échange, car il lui coûterait moins de perdre une armée qu'à nous de perdre une compagnie. » Et la retraite de ces hommes déployés au loin sera périlleuse s'ils gagnent le passage en force.
« Et qu'en est-il de Caerandros ? » dit le prince. « Il faudra tenir l'île aussi, si Osgiliath est défendu. N'oublions pas le danger sur notre flanc gauche. Peut-être les Rohirrim viendront-ils, peut-être que non. Mais Faramir nous a parlé des forces qui ne cessent d'affluer à la Porte Noire. Plus d'une armée pourrait en sortir et tenter plus d'un passage à la fois. »
« La guerre ne va pas sans d'énormes risques, » dit Denethor. « Caerandros a sa garnison, et on ne peut, pour le moment, y envoyer d'autres troupes. Mais je ne céderai pas le fleuve ni le Pélénor sans une lutte acharnée, pas s'il est ici un capitaine qui ait encore le courage d'obéir à son seigneur. »
Alors tous restèrent silencieux. Mais Faramir répondit enfin, «
Je ne m'oppose pas à votre volonté, ô mon père.
Puisque Boromir vous a été dérobé, j'irai et je ferai de mon mieux à sa place, si vous me l'ordonnez.
Je te l'ordonne, dit Denethor.
Alors adieu, dit Faramir. Mais si je devais revenir, ayez meilleure opinion de moi.
Tout dépend de la manière de ton retour, dit Denethor.
Ce fut Gandalf qui, le dernier, parla à Faramir avant son départ vers l'Est.
N'allez pas sacrifier votre vie inconsidérément ou par amertume, lui dit-il. On aura besoin de vous ici, à d'autres fins que la guerre. Votre père vous aime, Faramir, et il s'en souviendra avant la fin. Adieu.
Ainsi le seigneur Faramir était de nouveau parti, entouré de tous ceux qui avaient consenti à le suivre ou qui n'étaient pas indispensables. Sur les murs, d'aucuns regardaient à travers la pénombre vers la ville en ruine, se demandant ce qui s'y passait, car on ne pouvait rien distinguer. Et d'autres, comme avant, regardaient au nord en comptant les lieues qui les séparaient de Théoden au Rohan.
Viendra-t-il ? Se souviendra-t-il de notre alliance ? Dirent-ils.
Oui, il viendra, répondit Gandalf, même s'il devait arriver trop tard. Mais réfléchissez. Dans le meilleur des cas, la flèche rouge ne peut lui être parvenue il y a plus de 2 jours, et les milles sont longs depuis Edoras.